83 rimes.
La dernière fois, nous avons commencé à voir la deuxième modalité de l'être en acte, le bien, qui se découvre non par rapport à la substance, mais par rapport à l'esprit. En effet, le bien est le fruit d'une opération qui a pour fonction de nous unir à notre fin. Cette opération, appelant l'appétit d'un autre, ne nous met-elle pas devant la dépendance première fondamentale de l'homme face à l'autre? Vous voyez bien ce qui souligne ici, ce qui est vrai, c'est que l'essai, première modalité de l'acte, l'essai face à la substance, c'est la substance qui subsiste, c'est-à-dire qui est reliée immédiatement à l'essai. Et cette substance immédiatement reliée à l'essai, en elle, il y a cette capacité d'être actué, son essence. C'est là, cela qui nous donne le point de vue de l'autonomie. L'autonomie dans l'ordre de l'être. On reverra du reste le problème de la personne. Puis vous avez une seconde modalité, le bien. Seconde modalité, le bien. Le bien face à l'amour. À l'amour spirituel. C'est pas n'importe quel amour. Mais c'est l'amour spirituel qui fait découvrir le bien. Tout amour me fait découvrir le bien. Mais l'amour spirituel me fait découvrir le bien dans ce qu'il a de plus fort. Cet amour spirituel, donc, me relie au bien. Je suis ici en face, non plus de le point de vue de l'être, mais de l'opération vitale, spirituelle. Disons les trois. Opération vitale spirituelle. C'est bien ça l'amour. Et l'amour, parmi les opérations vitales spirituelles, est l'opération maxime étalée. C'est l'opération la plus spirituelle, c'est l'opération la plus vitale, c'est l'opération la plus qualitative. Donc c'est vraiment le sommet de l'opération vitale spirituelle. Alors, c'est vrai que ce point de vue de l'amour me met en présence non plus de l'autonomie, mais d'une certaine manière, comprenons bien, de la communication. Le bien est diffusif de soi. L'essai, on ne dit pas que l'essai est diffusif de soi. Fameux adage, bonum diffusivum sum, ce qui est très difficile à bien comprendre. On ne sait pas très bien d'où ça vient, ça se calme mieux. C'est une génération spontanée. Alors, on dit que ça doit venir, c'est pas étonnant si c'est un bien diffusif, c'est une génération spontanée. Donc, alors, le bien diffusif de soi, alors on dit que ça vient d'un courant néoplatonicien, que saint Thomas intégré ça comme saint Thomas intègre l'estomac de bois, on intègre tout ce qui est assimilable, peu importe que ça vienne de droite ou de gauche, le tout c'est que ça exprime quelque chose de vrai. C'est la seule chose qui prend. Alors le bien diffusif de soi, c'est très vrai le bien diffusif. L'amour nous met en face de la première dépendance et le bien de la première communication. C'est intéressant puisque c'est très différent, vous voyez. J'allais dire, l'aspect de l'essai substance, l'autonomie, quelque chose de substantiel, de stable. L'essai n'est pas de soi diffusif. Tandis que le bien est diffusif de soi. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et ça fait partie justement de l'exigence du bien. Le bien est diffusif de soi, c'est-à-dire le bien se communique. Et en même temps, l'amour, à la différence de la subsistance. La subsistance, la substance, elle possède l'essai. pas celle de celle. Il y a une espèce d'unité qui se fait ici. Unité substantielle entre l'essence et l'existence. C'est une unité substantielle qui existe. Et c'est ça l'autonomie d'un être. L'autonomie dans cette unité substantielle. Entre l'amour et le bien, il y a une union spirituelle. C'est une union spirituelle. Celui qui aime, qui est lié au bien, c'est une union spirituelle. Ce n'est pas une unité substantielle. C'est une union spirituelle. Cette union spirituelle fait que cette union est dans l'ordre de l'opération et nous savons très bien qu'elle est de l'ordre de l'intentionnalité. Elle est intentionnelle. Elle n'est plus substantielle. Mais ce qu'on gagne du côté ultime, on le perd en stabilité et fondement. C'est assez normal, du reste. Mais c'est normal, il n'y a rien de plus stable que la substance possédant l'essai, elle subsiste. On a inventé ce mot, elle subsiste. Elle subsiste en elle-même, dans une immanence parfaite. Et l'essai est l'essai actu. La substance, mais l'actu de façon immanente. Qui fait que la substance subsiste. Donc il y a une unité substantielle. Tandis qu'entre l'amour et le bien, d'entre l'amour et le bien, il y a une union spirituelle intentionnelle. C'est quelque chose d'ultime, le bien est quelque chose d'ultime, c'est vrai. Si j'analyse le bien, comme le fait saint Thomas montre que le bien implique l'essai, mais que le bien est plus que l'essai. Je ne peux pas ramener le bien à l'essai. Il y a quelque chose de plus dans le bien. Ramener le bien à l'essai, ce n'est pas regarder le bien en lui-même. Le bien est plus. Subsister, c'est un bien fondamental, dont je ne m'aperçois pas toujours. Il y a des gens qui disent hein, « Pourquoi je subsiste ?» Je ferais beaucoup mieux de ne pas subsister. Hein. Beaucoup, mais j'ai une vie impossible, c'est impossible cette vie. Moi j'aimerais, alors on rejette le pauvre Jean hein, sur son fumier. Ben, il maudit le jour de sa naissance, donc le jour où il a commencé à subsister. Ben, c'est, il maudit ça, il considère que c'est similaire, parce qu'il n'a pas le bien. Que le bien implique l'essai, c'est bien évident. Mais le bien implique plus que l'essai. Alors je ne dis pas un sur-essai, il implique plus. Alors, il y a différentes manières d'étudier comment le bien implique plus. Et saint Thomas regardera le bien par rapport à l'homme, il mettra 3 degrés dans le bien. Le bien implique l'essai, le bien implique les vertus, les capacités d'opérer, capacité d'aller plus loin, et l'opération qui m'unit à ma fin. Un être bon est un être qui est finalisé. Dans la mesure où vous n'êtes pas finalisé, vous n'êtes pas entièrement bon. Et au moment où vous n'êtes pas finalisé en acte, vous n'êtes plus bon du tout. Ah, plus bon du tout, oui, vous êtes encore bon, puisque vous avez l'essai et la capacité de vous redresser. Mais au moment où, par exemple, dans un acte d'orgueil, vous tournez le dos à la finalité, vous n'êtes plus bon. On voit vos temps et vos griffes. Vous n'êtes plus bon. Le côté ultime disparaît. C'est vrai, ça. Il y a quelque chose de très particulier dans la bonté. Votre subsistance, non, elle reste toujours. Vous ne pouvez pas la supprimer. Tandis que vous pouvez supprimer votre bonté actuelle. La fragilité du bien. C'est important de comprendre la fragilité. Au point de vue philosophique, hein. Au point de vue philosophique, la fragilité du bien. C'est un acte, je comprends très bien quelqu'un comme Camus qui dit « Nous ne pouvons plus parler du bien, il n'existe plus. » Impossible de voir les réalités qui subsistent, oui. Mais le bien comme tel, il est fragile. Parce que si je l'analyse, je vois que le bien pour l'homme, c'est le seul bien que je constate, hein, parce que je n'ai pas l'expérience du bien de Dieu, au point de vue métaphysique. Hein. Donc c'est le seul bien que je constate. Je vois que le bien implique ces différents éléments. et donc implique quelque chose qui atteint son sommet. Le bien implique un acmé, un sommet. Il y a quelque chose qui est ultime, un sommet, c'est quelque chose d'ultime. Le bien, c'est quelque chose d'ultime dans le sens profond. Je ne peux pas aller au-delà. Tandis que je peux aller au-delà de l'essai. Je peux aller au-delà, comprenons bien. Je ne peux pas aller au-delà de l'essai en tant qu'il est subsistant. Il y a quelque chose de fondamental et donc de radical, mais le bien ajoute pour moi. Et il se traduit justement dans ce fait que c'est l'opération vitale spirituelle qui m'unit à mon bien. Et cette opération vitale spirituelle fait l'union spirituelle. L'union affective, pas l'union substantielle. Une différence entre l'unité substantielle et l'union affective. L'union affective est intentionnelle. Ça, je peux le constater tout de suite. Hein. Dès que je regarde le point de vue de l'essai et du bien, je constate tout de suite que le bien implique quelque chose de bien plus complexe. Parce qu'il est ultime. Et par le fait même, dans notre monde d'aujourd'hui, beaucoup plus précaire. C'est rare que je rencontre le bien. Il faut le reconnaître. Ut in pluribus, ut in pluribus, le philosophe le disait. La plupart du temps, je ne rencontre pas le bien. Ça explique des quantités de choses, du reste, ça. Ça explique le désespoir, ça explique l'amertume, ça exprime le repliement sur soi, parce qu'on n'a pas découvert le point de vue. Alors, le point de vue métaphysique est au-delà de ce conditionnement, même si vous n'avez pas rencontré le bien existe. Oui, il existe. Même s'il n'y a qu'un seul homme bon sur la terre, c'est suffisant. Le bien existe. Et ce bien suscite l'amour. Et je ne dis pas où il existe. Hein. Il existe, ce bien existe. Mais il est précaire. Je dirais tout de suite ça. La précarité du bien. La précarité du bien par rapport à l'homme. Par rapport à son conditionnement, c'est évident. Tandis que je ne dis pas du tout la précarité de la subsistance. C'est l'inverse. C'est quelque chose de très très stable et l'unité substantielle, c'est quelque chose qui tient. Alors, comprenons bien, je vois toujours les deux, hein, les modalités du bien, les modalités de la puissance. La modalité de la puissance, vous comprenez, de l'amour substantiel, du côté potentiel, hein, du côté de l'être en puissance. Il y a du plus et du moins. Chose très importante à reconnaître. Tandis que du côté de l'acte, il n'y a pas de plus et de moins. L'acte est indivisible. Je peux voir des éléments qu'il compose, mais l'acte en lui-même est indivisible. Tandis qu'au contraire, l'être en puissance implique du plus et du moins. C'est pour ça que ça ne me gêne pas du tout de regarder l'amour spirituel, de regarder la volonté, la capacité d'être actuée par le bien, qui est encore une potentialité plus radicale. Donc, celle-ci est une potentialité plus proche de l'acte, l'amour spirituel, et la volonté, l'appétit. L'appétit naturel, qui se tourne vers le bien, est une potentialité plus radicale. Donc, du côté être en puissance, il y a du plus et du moins. Du côté, au contraire, de l'être en acte, il y a quelque chose d'ultime. Et s'il y a quelque chose d'ultime, il y a quelque chose d'indivisible. Le bien, au point de vue métaphysique, comme modalité de l'acte, est quelque chose d'indivisible. Je peux voir sa complexité et sa précarité dans sa manière de se réaliser, c'est-à-dire de se réaliser dans l'homme. C'est évident, je vois que c'est rare. C'est rare de rencontrer un homme bon. C'est rare de rencontrer la bonté. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais de fait, c'est pas parce que c'est rare au point de vue de ma rencontre que je ne peux pas étudier métaphysiquement ce que c'est que le bien. Vous voyez ? Là, vous voyez bien la différence, parce que je crois que c'est très important. Le bien, au point de vue métaphysique,
si j'ai une expérience de l'amour spirituel, je peux en parler. Si je n'ai pas eu l'expérience de l'amour spirituel, c'est très difficile d'en parler. Je ne peux en parler qu'analogiquement. Tout homme a une expérience d'un amour passionnel, je crois. Au moins l'amour du chocolat. Tout homme a eu l'expérience d'un amour passionnel. Bon, s'il a eu l'expérience d'un amour passionnel, il a donc l'expérience analogiquement du bien. S'il a l'expérience d'un amour spirituel, il a l'expérience directe du bien. Au point de vue métaphysique, hein, l'analogie suffit. Donc nous pouvons parler entre nous du bien, même si de fait vous n'avez que l'expérience de l'amour du chocolat. Ça vous suffit? Pas l'expérience actuelle, mais l'expérience qui a existé, ça suffit. Et alors, cette expérience me fait comprendre ce que c'est que le bien sensé, et à partir de là, le bien spirituel. J'expérimente ce que c'est que ce bien spirituel. Et je pose ce bien. Et je dis que le bien est la modalité de l'acte par rapport à l'esprit. Et non pas par rapport à l'être. Comprenons bien. Pourquoi je fais cette distinction? C'est parce que justement, quand il s'agit de mon expérience, mon être n'est pas mon esprit. Si mon être était mon esprit, à la manière de Descartes, je ne pourrais plus faire la distinction. C'est vrai, si mon être s'identifiait avec mon esprit. Pour Descartes, l'être s'identifie avec l'esprit. Cogito ergo sum. Donc, l'esprit s'identifie avec l'être. Tandis que je ne dirais pas du tout, pour moi, que l'esprit s'identifie avec l'être. Si j'ai donc une distinction entre esprit, qui est source de mes opérations vitales et de mes opérations spirituelles, je fais la distinction entre être et esprit. Je regarde la modalité de l'être, je dis c'est la substance. Parce que l'être est quelque chose de premier. L'esprit est quelque chose qui est second pour moi par rapport à mon être. Second en ce sens que j'ai existé avant d'exercer mon esprit. Je n'ai pas eu conscience immédiate d'exercer mon esprit et conscience immédiate d'aimer. Donc c'est quelque chose de second, génétiquement. C'est quelque chose de second aussi selon l'ordre de la nature. Puisque en moi, mon esprit n'est pas substantiel. Si mon esprit était en moi substantiel, si mon esprit s'identifiait avec ma substance, à la manière de Descartes, c'est la grande tentation, ça. Hein? Mon esprit n'est pas substantiel en moi. Pourquoi? Parce que j'atteins mon esprit à travers mes opérations. Et mes opérations, je sais très bien qu'elles peuvent croître. Et mes opérations, je sais très bien qu'elles peuvent à un moment s'arrêter. Et donc, mon esprit n'est pas identique à ma substance. Mon esprit n'est pas substantiel en moi. Si mon esprit n'est pas substantiel en moi, je comprends qu'il peut y avoir une modalité particulière du côté de l'esprit. Une modalité d'acte particulière du côté de l'esprit. Cette modalité particulière de l'acte du côté de l'esprit, c'est ce que j'appelle le bien. Pourquoi? Parce que l'opération ultime du côté de l'esprit, c'est l'amour. C'est à la fois l'opération la plus fondamentale et l'opération ultime. C'est l'amour. Or, l'amour me révèle le bien. Et donc, c'est bien la bonté actue mon amour. Et c'est bien la bonté qui me donne une modalité particulière de l'acte. Alors, vous comprenez? Si je veux regarder la différence qui existe entre essai et bien. J'ai la différence analogue entre le point de vue de l'être, substantiel, et esprit. Esprit, volonté. La volonté, c'est-à-dire l'appétit spirituel. Je peux établir cette analogie. Et établir cette analogie va me permettre de préciser ce qu'il y a de particulier dans cette deuxième modalité de l'acte. Comment cette deuxième modalité de l'acte, d'une certaine manière, est seconde, et d'une autre manière, elle est première. Ce que je vais expliquer en tout simplement, une fois qu'on saisit cette analogie. C'est les relations qui existent entre être, substance, et esprit. Font un des grands problèmes sur lequel Aristote a cessé de regarder à propos du réanimant. Est-ce que le nous est substantiel? Ou est-ce que le nous n'est pas substantiel? Est-ce qu'il y a une âme substantielle qui informe mon corps et une autre âme substantielle qui est noétique? Ou est-ce que c'est la même âme? Vous voyez, c'est les rapports entre être, substance et esprit. Pour moi, parce que je ne peux pas parler de... Je n'ai pas l'expérience d'un esprit séparé. C'est dans vos rêves. En dehors de là, non. En dehors des rêves, vous n'avez pas l'expérience de l'esprit séparé. Vous avez l'expérience d'un esprit qui s'enracine dans l'être substantiel. Et qu'il y a une différence entre les deux. L'esprit substantiel, mon être substantiel, est fondamental. Le premier, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est en premier lieu. Mais d'autre part, mon être substantiel implique l'esprit, et c'est l'esprit qui vous permet d'atteindre la finalité. Donc ce qui est du tout. Et donc, de ce point de vue-là, l'esprit et la volonté, d'une certaine manière, me montrent ce qui est d'ultime par rapport à l'être. Et ce n'est pas la substance qui me montre ce qui est d'ultime, le double regard que j'ai. Pour saisir ce qu'est de fondamental et ce qu'est d'ultime. Donc, le bien aura quelque chose d'ultime, qui va plus loin que l'esprit qui est dans le fondamental. Donc, au point de vue de l'acte, qui est au-delà du fondamental et de l'ultime, puisque l'acte est à la fois ultime et fondamental, vous comprenez que le bien a quelque chose, au point de vue de la modalité, quelque chose comme modalité d'acte, qui passe avant l'essai. C'est très très curieux. Et l'essai a quelque chose de fondamental qui passe avant le bien. Donc il ne faut pas, il ne s'agit pas, vous voyez, de mettre une accolade, un, deux, trois, comme s'il s'agissait de quelque chose qui était moindre. Pas du tout, ce serait très faux. Au niveau de la métaphysique de l'être en acte, hein, parce que c'est ça que nous regardons. Au niveau de métaphysique de l'être en acte, l'essai est directement relié à l'être en acte et le bien est directement relié à l'être en acte. Et ça, c'est très important de comprendre. C'est allo, allo. C'est deux modalités différentes. Deux modalités analogiques différentes. Et ces deux modalités analogiques différentes s'unissent dans l'être en acte. Alors, vous voyez, comme c'est important de saisir que ça s'unit dans l'être en acte. C'est l'être en acte qui permet cette diversité. C'est l'être en acte qui va donc donner la seule solution de la différence entre l'essai substantiel et l'esprit. C'est pas le bien et l'essai. Parce que le bien et l'essai me donnent deux modalités différentes. Alors, les deux modalités différentes ne peuvent se comprendre que dans la mesure où je remonte à ce qu'il y a de premier. La ratio commune. La ratio commune, c'est la ratio à tous. C'est l'être en acte. L'être en acte se donne à moi selon deux modalités différentes, l'essai et le bien. Vous voyez, ça c'est très très important de le comprendre. Et ces deux modalités, vous voyez, ne sont pas, il n'y a pas une conséquence entre les deux. Hein. En disant, de l'essai, je passe au bien. Non. C'est l'être en acte qui est immédiatement divisé en essai et en bien. Autrement, vous ne comprendriez pas l'analyse que fait saint Thomas quand il dit que le bien implique l'essai plus les vertus, la capacité plus l'opération. Ça montre très bien, quand saint Thomas fait ça, que le bien est lui directement relié à l'acte. Mais que c'est vrai qu'il implique l'essai. C'est sûr, il l'implique. Mais ce n'est pas ça le bien. Le bien est autre chose. C'est que de fait, être uni à la fin. Et que le bien, c'est pour un être limité, c'est d'être uni à sa fin. Mais le bien en lui-même, en tant qu'il est bien, eh bien, il est une modalité de l'acte. Alors, je relis la petite note posée pour que vous voyez mieux la question. La dernière fois, nous avons commencé à voir la deuxième modalité de l'être en acte, le bien, qui se découvre non par rapport à la substance, mais par rapport à l'esprit. Alors, faisons attention. Le bien se découvre par rapport à l'être. C'est par rapport à l'être, hein. C'est pas une modalité de l'esprit. C'est une modalité de l'être. Donc le bien se découvre par rapport à l'être en acte. Directement. Mais c'est vrai qu'il s'explicite grâce à l'esprit. C'est-à-dire à l'esprit parfaitement esprit, dans l'amour spirituel. En effet, le bien est le fruit d'une opération. Le bien est le fruit d'une opération. Non, le bien n'est pas le fruit d'une opération. Le bien attire. Il existe avant l'opération. Donc le bien n'est pas le fruit d'une opération qui a pour fonction de nous unir à notre fin. Non. Le bien n'a pas une fonction de nous unir au bien. Le bien est plus que la fin. Puisque la fin se définit par rapport au bien. Il faut bien saisir ça. Hein. Le bien, c'est tout de suite, c'est pour ça que je dis, c'est directement relié à l'être en acte. Le bien se définit par rapport à l'être en acte. Et l'esprit le saisit en étant attiré par lui. Étant attiré par le bien, j'aime. C'est à travers l'amour que le bien se dévoile. Voilà ce qu'il faudrait dire. Hein. C'est à travers l'amour que le bien se dévoile et qu'il se dévoile pour moi. Donc le bien n'est pas le fruit d'une opération qui a pour fonction de nous unir à notre fin. Non. L'amour nous unit directement à notre bien. Et le bien nous fait dévoile le bien. Cette opération appelant l'appétit d'un autre ne nous met-elle pas devant la dépendance première fondamentale de l'homme face à l'autre? Je dirais non, la première dépendance de l'homme face à l'autre, c'est toujours le jugement d'existence. Et donc, d'une certaine manière, c'est l'essai. C'est sûr, la première dépendance, c'est l'essai. Mais c'est une dépendance en l'immanence de l'unité, vous voyez. Tandis qu'ici, c'est vrai que le bien me fait plutôt l'expérience première de l'autre dans sa transcendance. Alors je dirais oui, dans l'autre, dans sa transcendance. Ici, c'est l'autre dans son immanence. Mais c'est l'autre. C'est l'autre dans l'immanence et l'autre dans la transcendance. Vous avez toujours l'expérience de l'autre immanent et transcendant. Évidemment, l'autre transcendant, c'est plus l'autre. Vous voyez ? Je conçois mieux. Mais c'est vrai que le bien, c'est l'expérience de quelque chose qui me dépasse. C'est l'expérience de l'être en acte dans ce qu'il a d'ultime, par rapport à mon esprit, par rapport à mon amour. C'est ce qu'il y a d'ultime. Je découvre cela. Donc, vous voyez, j'espère, comment cette découverte du bien me met en présence de quelque chose d'irréductible par rapport à l'essai. Quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus se comprend par rapport à l'être en acte. C'est l'être en acte pour l'esprit. Voilà ce que c'est que le bien. C'est l'être en acte pour l'esprit. C'est-à-dire pour l'appétit spirituel. C'est l'être en acte pour l'appétit spirituel. Et c'est vrai, seul l'appétit spirituel comprend, dévoile le bien et le saisit comme bien, dans toute sa force. Vous voyez tout de suite, j'espère, que si on fait la confusion entre le point de vue de l'essai et de l'acte, à la manière de Gilson, quand Gilson dit que l'essai de saint Thomas, c'est ce qu'il y a d'ultime dans sa métaphysique, donc quand il réduit l'être en acte à l'essai, réduire l'être en acte à l'essai, c'est diminuer l'être en acte, puisque c'est la ramener à un mode. Alors vous voyez à ce moment-là comme c'est difficile par rapport au bien. Puisque vous ne pouvez pas identifier le bien et l'essai. Certains l'ont fait, mais c'est bien. Mais alors à ce moment-là, vous ne respectez plus ce qu'il y a d'irréductible au bien par rapport à l'essai. Il y a quelque chose d'irréductible. Ce quelque chose d'irréductible du bien par rapport à l'essai, c'est très important de le saisir. Parce qu'autrement, l'éthique serait en dépendance de la métaphysique. L'éthique est bien en dépendance de la métaphysique d'une certaine manière, mais l'éthique a des principes propres qui proviennent du bien. Alors à ce moment-là, vous ne respectez plus ce qui a de caractère propre à l'anthropologie. L'anthropologie qui se base en premier lieu sur l'éthique, qui est donnée dans l'éthique, a quelque chose d'unique. Il y a un principe propre que chez lui, qui n'est pas métaphysique. Et le principe propre que chez lui, qui n'est pas métaphysique, se fonde sur le bien. Et pour ça, il faut que le bien ait son irréductibilité par rapport à l'essai. Si vous voyez bien, c'est important parce que ça confirme, et quand on peut confirmer certaines choses par d'autres aspects, ça nous aide à mieux comprendre. Ça nous aide à mieux comprendre. Évidemment, c'est difficile, on est dans des sommets. Hein. Vous voyez bien, la métaphysique, philosophie première. La philosophie première regarde l'être en acte. Et la philosophie première me donne le sens de l'essai. Le bien va s'expliciter en éthique. Par le point de vue de la fin. C'est vrai. Le principe nouveau, c'est que le bien fonde la fin. Et l'éthique existe grâce au principe de finalité. Et le principe de finalité, dans son exercice, est propre à l'éthique. Et il n'est pas métaphysique. Il est d'ordre pratique. Tandis que le bien que j'étudie en métaphysique, je l'étudie par rapport à l'être en acte. Je l'étudie donc d'une manière spéculative. Le bien fonde la fin, et la fin vécue, c'est le point de vue pratique. C'est l'intention. C'est le point de vue pratique. Je vis d'une manière pratique de ma fin. Je vis contemplative du bien. Ça, c'est aussi très important de saisir ça. C'est de saisir comment le bien doit être étudié en métaphysique. En éthique, j'étudie l'amour. Je peux étudier aussi en métaphysique l'amour. Je l'étudie en fonction du bien. Tandis que l'amour que j'étudie en éthique, je l'étudie en fonction de la fin. Alors je montre bien la différence qui existe entre les deux. Mais c'est vrai que l'éthique ne se structure qu'à partir de la fin. Je ne peux pas structurer l'éthique à partir du bien. Aristote dit admirablement dans la première leçon d'éthique, en montrant que ce n'est pas le bien en soi qu'on regarde l'éthique. L'éthique ne regarde pas le bien en soi, donc ne regarde pas le bien en tant qu'être en acte. L'éthique regarde le bien qui me finalise. Donc le bien qui est pour moi, et source de fin. Et à partir de là, j'essaie de structurer ce que c'est que l'éthique. Vous voyez, c'est là où on voit comment, grâce à l'être en acte qui est au-delà de l'essai, je peux comprendre comment le bien a quelque chose d'irréductible à l'essai. Et qui se rapporte à l'être en acte.
Et je peux très bien dire, alors, et reprendre là la formule de saint Thomas, parce que je crois qu'elle est bonne et qu'elle doit être retenue, même si elle est de saint Thomas, n'est-ce pas, elle est bonne, elle a quelque chose qui est intelligent, eh bien je peux dire que l'essai est premier par rapport au bien du côté de l'intelligibilité, du côté substance. La substance est toujours ce qui est le plus intelligible. C'est premier du côté de l'intelligibilité. Et le point de vue du bien est premier du côté de la causalité. Parce que le bien va commander la fin. Ce n'est pas l'essai qui commande la fin. Tandis que le bien va commander la fin. Alors, parce que le bien commande la fin, il y a une priorité du bien par rapport à la causalité. Là, je le vois là, directement. Je le vois directement dans le point de vue de la relation du bien par rapport à l'être en acte, la relation de l'essai par rapport à l'être en acte. Je dirais que l'essai est plus proche de l'être en acte du côté de l'intelligibilité, et que le bien est plus proche de l'être en acte du côté de la causalité. Du côté de la causalité, il y a une proximité plus grande. Et alors, par là, je vois bien que je ne peux pas mettre un ordre absolu entre la priorité de l'essai et la priorité du bien. Non. Sous un aspect, l'essai passe avant. Sous un autre aspect, le bien passe avant. Et c'est les relations qui existent entre l'être et l'esprit. Ça, ça éclaire, ça nous aide à saisir.
Est-ce que l'esprit de l'essai n'est pas vu du côté de la cause formelle et le bien du côté de la cause
finale? Oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Du côté de la cause formelle, donc du côté de l'intelligibilité, et le bien du côté de la cause finale, donc du côté de la causalité. Puisque du côté de la causalité, la cause finale est cause et cause. Oui. Tandis que du coup, la cause formelle, c'est l'intelligibilité. Oui. Donc c'est essayer de saisir la priorité du point de vue de l'essai et le point de vue du bien par rapport à l'être en acte. Voyez. Autrement dit, si vous voulez, on pourrait dire que l'essai a une tendance de formaliser l'être en acte et le bien a la tendance de montrer l'aspect final de l'être en acte. Puisque l'être en acte, hein, n'oublions pas, l'être en acte, il est fin. Télos. Donc c'est déjà la causalité finale que je saisis. Mais dans cette causalité finale est contenu l'aspect formel de l'essai. Oui. Et dans le point de vue du bien, j'explique le point de vue de la finalité. Donc il y a deux aspects qui viennent compléter le point de vue de l'être en acte. Et ces deux aspects sont nécessaires pour moi. Je ne peux pas les réduire à l'un. Les réduire à l'un, ce serait formaliser la fin. Ce qui est terrible. Voyez, ce serait donc empêcher de comprendre ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à l'être en acte. Ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à l'être en acte, je le saisis beaucoup plus du côté du bien. Et on sent du récent, on sent bien que l'être en acte, c'est plus le point de vue du bien. Alors plus, comprenons bien, du côté de la finalité, pas plus du côté de la structure, du côté fondamental. Du côté fondamental, c'est l'essai. Ça, au point de vue métaphysique, vous voyez, c'est très très important. On saisit là deux notes très très importantes de l'être en acte. Et ça nous aide à mieux saisir toute la richesse de l'être en acte. Parce que l'être en acte est tellement subtil à saisir. L'être en acte est au-delà du bien et au-delà de l'essai, puisqu'il les unifie. Il est au-delà et pourtant il est immanent aux deux, hein. C'est une division analogique, donc il est immanent, il est présent aux deux. Alors, étant présent aux deux, il me permet de comprendre ce qu'il y a de particulier dans l'essai, ce qu'il y a de particulier dans la substance, dans le bien. Alors, si je confonds au contraire l'essai et l'acte, je ne pourrais plus dire ça. Alors à ce moment-là, j'aurais tendance de séparer l'éthique de la métaphysique. J'aurais tendance. Dire qu'il y a une métaphysique du bien, il y a une métaphysique de l'essai. Et saint Thomas, c'est la métaphysique de l'essai, et saint Augustin, c'est la métaphysique du bien. Sans comprendre qu'il y a le dépassement dans l'être en acte.
l'être en acte, quand je saisis l'être en acte, je peux comprendre l'importance de l'essai, et plus je comprends l'importance de l'essai, plus je comprends l'importance du bien. Il y a un rejaillissement immédiat. Et je comprends à ce moment-là qu'une éthique doit se structurer par elle-même dans la lumière de la métaphysique. Elle se structure par elle-même parce qu'elle a un principe qui est d'ordre pratique et qui ne vient pas de la métaphysique. Je ne peux pas déduire la finalité de la métaphysique. Impossible. Je saisis une finalité au niveau de l'être qui est fondement de la finalité pratique. Et la finalité pratique, c'est celle que je saisis à partir de l'amour dans le bonheur. Et le bonheur me donne alors ce qui me permet de structurer le point de vue métaphysique. Alors il y avait une question qui se posait à propos du bien. Vous pourriez la poser, la question du bien, la division du bien en soi et de Dieu. Vous pouvez la poser peut-être. Oui, oui, à part de l'éthique.
Oui. Et bien le bien, c'est la contemplation, on pourrait dire l'amour d'amitié, tandis que, et il dit dans l'éthique toujours, que le bien en soi importe peu pour ses conséquences.
Tout à fait, tout à fait.
Et en fait, dans l'amitié en soi, ça importe à l'amitié.
Tout à fait.
Là, il entend bien comme vous en parlez beaucoup plus souvent. Alors, d'où la confusion, enfin, ce qu'on pourrait demander, finalement, le bien, est-ce que c'est l'amour?
Ah non, le bien.
Est-ce que vous l'avez compris? Ou bien est-ce que c'est ce qui est à la source de cette amour?
Le bien.
Pour Aristote, en tout cas, c'est les deux, le bien et le bien.
Tout à fait. Oui. Mais il faut préciser. Il faut préciser la double vision que nous avons du bien. Nous avons une vision métaphysique du bien, quand je regarde le bien, en tant que l'être en acte. Modalité particulière de l'être en acte. Bon, ça, c'est la vision métaphysique. La vision métaphysique, c'est de rapporter le bien à l'être. Et de voir ce que le bien apporte à ma connaissance de l'être. Là, je suis en philosophie première. En éthique, le principe nouveau de l'éthique ne naît pas à partir de l'amour, mais à partir de la fin. Il faut bien comprendre, hein? Je suis dans l'ordre pratique. Dans l'ordre pratique, le bien, je le saisis parfaitement à partir de la fin. Mon bien, c'est ma fin. Et tant que je ne saisis qu'un bien relatif, je ne saisis pas mon bien. Donc, du côté éthique, bien et fin se tiennent. Amour et intention se tiennent. Bien que je sache qu'il peut y avoir une distinction entre les deux. Mais au point de vue pratique, je suis obligé de comprendre qu'ils se tiennent. C'est pour ça que quand j'étudie l'amour en éthique, je le fais en éthique, on étudie ce que c'est que l'amour, pour comprendre ce que c'est que l'intention, premier acte de la volonté. Mais je n'étudie pas l'amour en lui-même, je l'étudie en éthique, c'est-à-dire en tant qu'il est source de la découverte de la fin. Tandis qu'en métaphysique, je peux étudier le bien en lui-même, relativement à l'être en acte. Et étudiant le bien en lui-même relativement à l'être en acte, je peux étudier l'amour relatif au bien. Et je peux à ce moment-là donner une certaine métaphysique de l'amour dans le bien. Oui, c'est dans ce sens-là. Il n'y a pas de métaphysique de l'amour séparée de la métaphysique de l'être, mais il y a un regard métaphysique sur l'amour dans la lumière du bien. Oui.
Dans l'ordre pratique, on connaît le bien en tant qu'il nous arrive, c'est-à-dire en tant
que
l'être. Et dans l'ordre spéculatif, on le connaît par rapport à l'être.
Toujours. Pas dans l'ordre spéculatif. Oui. On le connaît par rapport à l'être. Mais toujours en tant qu'il nous arrive, parce que l'expérience demeure.
Et si on comprend ces deux points de vue-là, on dira que la fin, on va la ramener à ce qu'on veut plus connaître le bien, à ce qu'on veut plus connaître
le bien. Plus que naturel.
C'est-à-dire à notre opération, au plaisir.
Tout à fait. Oui. Vous avez le fait de ne regarder plus qu'une des modalités du bien, la modalité la moins parfaite, parce que c'est la propriété. Vous confondrez propriété et structure de la finalité.
Rendre subjectif le bien.
quand vous considérez que le bien suprême, c'est le plaisir. Donc, une éthique du plaisir considère que le bien suprême, c'est le plaisir. Ça provient du fait même que vous ne regardez plus que le bien qu'en fonction de votre comme naturalité à vous. Et vous ne regardez plus le bien vraiment en tant qu'il est votre fond, en tant qu'il est votre perfection. Et à ce moment-là, vous ne pourriez plus rejoindre le bien être en art. Parce qu'il y aurait l'aspect purement subjectif. Oui. Bon. Alors, essayons un instant, si vous voulez, parce que c'est quand même important pour nous, une fois qu'on a compris cette position mais philosophie première, du bien et de l'amour, je peux essayer de faire cette métaphysique de l'amour. Ce qui est important. Dans la mesure où, justement, je comprends que cette métaphysique de l'amour se fait à travers le bien. Il se fait dans le bien. Oui, je ne suis pas en éthique, là. Je suis vraiment en philosophie première. Que de fait, en éthique, dès qu'on est dans l'amour, on essaie de reprendre, c'est très vrai. Mais en réalité, ça doit se faire en philosophie première. Parce que c'est étudier ce qui est relatif à l'autre dans la lumière de ce à qui il est relatif. Il n'y a pas de philosophie propre de l'amour en dehors d'une métaphysique du bien. Parce que si vous aviez une philosophie propre de l'amour en dehors du bien, vous n'auriez qu'un aspect subjectif de l'amour. Et donc, vous ne sauriez pas ce que c'est que l'amour. Toute l'intelligibilité que je peux avoir de l'amour vient du bien. Ça, métaphysiquement, c'est très net. Puisque l'amour est relatif au bien. Or, il y a une chose très intéressante, propre à saint Thomas. C'est là où on touche comment saint Thomas a été plus loin qu'Aristote. C'est pas du côté de l'essai. Non, ça, c'est pas vrai. Mais c'est du côté du bien. Et on comprend très bien, c'est la manière dont saint Thomas va assumer tout saint Augustin, par le point de vue du bien. Et alors là, c'est là où Gilson aurait dû, en historien, vous voyez, il aurait dû en historien montrer que c'est du côté du bien qu'il y a quelque chose d'original à la métaphysique de saint Thomas. C'est pas du côté de l'essai. Je regrette. Parce que du côté de l'essai, c'est la substance, c'est... Et Aristote a très très bien saisi. Tandis que du côté du bien, on sent très bien. Aristote l'a saisi, hein, je ne veux pas dire qu'il n'a pas saisi. Mais saint Thomas explicite quelque chose. Eh bien, il y a un article, vous l'avez déjà dit. Et je le reprends parce que c'est des choses importantes à saisir. Où saint Thomas, quand il essaie de saisir ce que c'est que la raison du bien, c'est dans la somme théologique, hein, donc la question 5. Prima pars, question 5, où saint Thomas étudie ce que c'est que le bien in communi, avant d'étudier le bien en Dieu. Et alors, il nous dit que la distinction classique, aristotélicienne, en bien honnête, en bien source de plaisir, jouissance, en bien utile. Il nous dit que cette division n'est pas la division propre du bien humain. Ce qu'Aristote avait dit en éthique. Mais c'est une division du bien en lui-même. Donc, en tant qu'être en acte. La ratio boni. Très, très beau. C'est très fort de dire ça. C'est très puissant. Et ça, c'est très original. Personne ne l'avait dit avant. C'est très audacieux de voir que la ratio boni implique ces trois aspects. Vous voyez comme c'est intéressant pour l'analyse de l'amour. Si je dis que le bien en lui-même va impliquer ces trois dimensions, le bien honnête, le point de vue de la jouissance, le point de vue du dit. Si le bien en lui-même implique ces trois dimensions, il y aura donc nécessairement du côté de l'amour une répercussion, puisque l'amour dépend du bien. L'amour est tout entier relatif. Si j'arrive à discerner la structure du bien, je saisis la structure de l'amour. Ce qui est une chose très difficile à faire. Et ça, c'est directement dans cette lumière-là. J'espère que vous voyez bien le raisonnement. C'est par le bien, être en acte, que je peux préciser ce que c'est que l'amour. On est tous d'accord là-dessus, puisque l'imparfait ne se conçoit que par le parfait, puisque l'être en puissance ne peut se concevoir que par l'être en acte. Or, saint Thomas nous dit, je m'appuie sur saint Thomas, là, vous voyez, on pourrait laisser tomber l'autorité ensuite, mais je m'appuie sur saint Thomas pour faire plus court, hein, en disant qu'il y a une vision très intéressante de saint Thomas. Qui, je dis ça en point de vue méthode, hein, je sais que je m'appuie sur saint Thomas. Et ça me semble très intéressant. Le bien honnête, c'est-à-dire le bien aimé pour lui-même. Donc le bien considéré en soi. Le bien plaisir et jouissance, c'est la capacité du bien qu'il y a de permettre le repos. Et le bien utile, c'est la capacité du bien d'être un intermédiaire. Extraordinaire, vous voyez, je suis la voie, la vie et la vérité. Chose d'analogue. Le bien, il est voie utile. Le bien, il est repos. Et le bien, il attire. Il y a les trois choses dans le bien. Le bien est repos. Je me repose dans mon amour. Heureusement. Je me repose dans mon amour. Mais si je ne voyais que le repos dans mon amour, je n'aimerais plus et mon amour se gâterait. Ce serait la jouissance qui passerait devant. Je suis attiré par le bien. Ça, c'est le bien honnête, il m'attire. Et en même temps, le bien est une voie. Il est utile. Il est une voie. Oui, alors, au fond, c'est l'analyse du bien qui a cette capacité sur l'appétit volontaire, l'appétit spirituel, de susciter en moi un amour qui va avoir ses diverses dimensions. C'est ça ce qu'on verra demain. On verra ces diverses dimensions de l'amour.